Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Sébastien Guyot.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce débat des grandes voix historiques d'Europe 1. Ils sont tous réunis, toutes et tous, dans ce studio. Gérard Carrérou, Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Bonjour Sébastien. Bonjour.
Quelle semaine politique. Vous auriez, j'en suis sûr, adoré la commenter, adoré la décrypter.
Ah oui.
Nous aurions adoré vous entendre débattre du clash d'Armanin, Dupond-Moretti, de l'appel de Manuel Valls à voter Valérie Pécresse et de bien d'autres choses encore. Mais oui, mais les règles sont les règles et le SCSA nous interdit d'en parler de ces régionales à la veille du second tour. Ce n'est pas bien grave, nous avons plein d'autres sujets passionnants à évoquer ensemble, à commencer par le variant Delta et la mise en garde cette semaine de Jean Castex.
Ayez peur du virus, n'ayez surtout pas peur du vaccin.
La vaccination ralentit fortement en France pendant que le variant Delta progresse. Va-t-il gâcher notre été ? La France, l'Europe, le monde entier retiennent leur souffle. Deuxième thème du jour, les droits LGBT et la loi hongroise qui divise l'Europe.
Le projet de loi hongrois est une honte. Il établit clairement une discrimination contre des individus sur la base de leur orientation sexuelle.
Les valeurs européennes sont-elles menacées ? La Hongrie doit-elle sortir de l'Union européenne ? J'attends vos réponses. Et puis, cette petite phrase, tout sauf anodine, d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain.
Je crois qu'il est juste de dire que les États-Unis n'ont pas de meilleur partenaire, pas de meilleur ami dans le monde que l'Allemagne.
Emmanuel Macron appréciera. Nous verrons quels sont les impacts de cette sortie d'Anthony Blinken sur l'Europe et le couple franco-allemand notamment. Voilà pour le programme. Installez-vous confortablement. Le débat des grandes voix, c'est parti. Une petite devinette pour débuter les grandes voix cette émission. Je suis un type d'embouchure qu'un cours d'eau peut former à l'endroit où il se jette. Je suis la quatrième lettre de l'alphabet grec. Je suis surtout désormais le nom du variant qui fait peur au monde entier. Et oui, Delta, le variant Delta, plus contagieux qu'Alpha, au moins 60% déjà présent dans plus de 75 pays. Sydney qui se reconfine ce matin pour 15 jours totalement. On joue à se faire peur ou est-ce qu'il y a de vraies raisons de s'inquiéter, Charles Villeneuve ?
Moi, je trouve qu'il n'y a pas de raison de penser que cela n'arrivera pas en France. La question est de savoir quand. C'est ça la seule question qui se pose. Or, la circulation virale est au plus bas, au-dessous de 2000 cas par jour. Elle est à 1300 et quelques, j'ai vu ça.
Le dernier chiffre
hier soir.
Oui, absolument.
En dessous, en tout cas, de 2000 cas par jour. Et pour l'heure, on pratique la vaccination réactive, c'est-à-dire très rapidement autour des foyers de circulation du virus pour bloquer sa diffusion. C'est ce qu'on fait dans les Landes.
Et le variant Delta, c'est 10% des cas aujourd'hui en France. Et on nous dit qu'avant la fin de l'été, ce sera 90% partout en Europe.
Alors, il est plus contagieux, mais il n'est pas plus grave dans ces manifestations. Il faut quand même rassurer et pas de toute façon ameuter les gens. Parce que finalement, essayer de les alerter est une chose. Mais leur leur dire que c'est la vaccination qui est la seule arme, de toute façon, pour freiner.
Oui, mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « Regardez, en Israël, il y a 80% de vaccinés, au Royaume-Uni, il y a 80% de vaccinés. »
Ce n'est pas vrai.
Et les cas augmentent.
Ce n'est pas vrai. Vous donnez un chiffre faux.
Les cas augmentent.
Vous donnez un chiffre faux. Non,
alors,
pas du tout. C'est 56,7%.
Sur une dose, je voulais dire.
Et l'Angleterre, c'est 47,2%.
Pour les deux doses.
Parce que la vaccination, c'est les deux vaccins, de toute façon, complètement. Et vous savez que nous ne serons vaccinés à la fin août seulement qu'à plus de 35%. Pas plus, entre 32 et 35%. Donc, il faut surtout se faire vacciner pour faciliter la tâche des épidémiologistes. C'est ça qu'il faut se dire. 35 millions de personnes de Français seront, j'ai consulté l'Institut Pasteur et les modélistes de l'Institut Pasteur hier, 35 millions de Français, fin août, seront vaccinés des deux vaccins. C'est un bon niveau, mais ce n'est pas suffisant.
Et ce que disent, pour aller dans votre sens, les épidémiologistes, c'est qu'en effet, avec deux doses de vaccins, les vaccins sont efficaces contre le variant indien à 80%.
Voilà. Et puis, ce qui s'était passé en Angleterre, si on revient sur ce qui s'est passé en Angleterre, vous vous rappelez qu'ils avaient terriblement éloigné les deux doses d'AstraZeneca, puisque c'était l'AstraZeneca, et ils les ont éloignés d'une manière qui n'était pas prévue au début. Donc, peut-être des gens vaccinés pour le premier coup, non, et ont été beaucoup plus tard vaccinés pour le deuxième. Bon, et puis deuxièmement, quand on a 30 millions de Français, seraient-ils vaccinés? Il en reste d'autres. Tant qu'on n'a pas atteint l'immunité collective, et même l'immunité collective en France et dans le monde, toute vague peut à tout moment repartir, et toute vague peut à tout moment changer.
Alors, est-ce que, Gérard Carrérou, le gouvernement est allé trop vite malgré tout en levant les restrictions, notamment la levée du couvre-feu, notamment en levant l'interdiction du port du masque à l'extérieur ?
Alors, je ne vais pas répondre tout de suite. Je vais vous dire simplement une chose. Je ne suis pas un épidémiologiste. Un certain nombre d'entre nous... Attendez, laissez-moi parler, Madame Cottard.
Non, non, mais c'est vrai, il a raison. Il n'est pas Martin Blachier, ni Camille
Un
Lacombe.
Certain nombre d'entre nous, parmi les journalistes, parmi les gens qui font des émissions, et parmi les hommes politiques, sont devenus, au cours des deux dernières saisons, des épidémiologistes. Donc moi, je suis un Français moyen vacciné. Qu'est-ce que je constate? Et c'est la seule chose à laquelle je crois à deux choses en fait. Je crois, un, effectivement, aux vertus du vaccin. Dès que j'ai pu, je me suis fait vacciner. Et j'encourage tous ceux qui ne le sont pas encore, notamment les gens les plus fragiles et même les jeunes maintenant, donc à le faire. Mais l'autre chose dont je suis totalement convaincu, c'est la saisonnalité de ce vaccin. Nous vivons actuellement, reprenez exactement l'été dernier. Vous verrez l'été dernier, les courbes qui descendent, le nombre de gens qui sont dans les hôpitaux qui descendent, etc. Et qu'est-ce que vous voyez après un été où les gens vivent à peu près normalement? Vous voyez un retour de bâton de plus en plus important.
Il n'y avait pas le vaccin.
Non, mais je parle de la saisonnalité, Michel. Je veux dire, donc je m'attends à ce titre, comme beaucoup d'épidémiologistes que j'écoute, je m'attends à un retour d'épidémie en octobre-novembre,
en septembre.
Je ne peux pas vous donner la date parce que je serai peut-être un épidémiologiste à ce moment-là, donc je ne vous la donnerai pas, mais c'est ce que je crois.
Catherine Ney, on est à 200 000 vaccinations, en tous les cas pour les primo-vaccinés par jour en ce moment, c'est beaucoup moins et ce n'est pas assez, à répéter Jean Castex cette semaine. On a atteint le plafond de verre, vous pensez, déjà?
Je ne sais pas, en tous les cas, il est de plus en plus difficile de convaincre les gens qui sont très anti-vax et qui ne veulent pas se faire vacciner. Moi, je trouve extraordinaire que depuis que l'on vaccine, on n'ait pas obligé les personnels dans les EHPAD, les soignants, de se faire vacciner.
Absolument.
Donc, y a des réticences. Et les jeunes, comme ils s'imaginent qu'ils ne seront pas malades, ils ne sont pas en danger, on voit bien qu'il y a des réticences aussi à leur dire... Vous voyez, il y a eu quelque chose qui s'est passé il y a deux jours. On a dit que le maître ne participerait pas l'athlète français ne participerait pas aux Jeux Olympiques parce que depuis qu'il s'est fait vacciner, il a perdu ses moyens. Or, dans le passé, sans vaccin, il avait déjà par moments perdu ses moyens et c'est un intermittent du spectacle parce qu'il y a des hauts et des bas. Eh bien, là, je pense que de dire ça et de l'affirmer comme étant une cause a été pour les gens de sa génération et les jeunes quelque chose de très contre-productif. Donc, il faut faire très attention, vous voyez. Et donc, ce qui fait peur, voilà. Et donc, alors que la France, c'est vrai qu'elle fait partie des 5 pays européens où il y a une décélération, mais elle est 5e. Hein, elle vient après l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, elle est 5e. Donc, c'est bien, mais si on ne continue pas, eh bien, comme le dit le futur épidémiologiste Gérard, et peut-être qu'à la rentrée, on s'apercevra que, faute d'avoir vacciné, l'épidémie revient.
Il y a deux questions. Vous évoquiez la vaccination obligatoire, justement, faut-il la rendre obligatoire pour les personnels soignants? Vous allez réagir juste après. Michel, écoutez ce que disait Olivier Véran cette semaine.
J'appelle les employeurs, j'appelle également les salariés de ces EHPAD, notamment à se faire vacciner. Nous y travaillons avec Brigitte Bourguignon. Et d'ici la fin de l'été, si ça ne devait pas s'améliorer, oui, nous nous poserions la question d'une obligation vaccinale pour ces publics particuliers.
Il faut la rendre obligatoire pour les soignants des EHPAD, notamment, Michel Cotta, cette vaccination?
Moi, ça me paraît évident. Mais vous savez, pour la grippe aussi, pour le vaccin de la grippe, tous les soignants ne sont pas vaccinés. Alors, non, le problème se pose quand même de la vaccination obligatoire si vraiment on n'arrive pas à remonter ce gap terrible, cette réticence des jeunes qui se disent il y a un peu de lutte de génération là-dedans. Nous, on n'est pas malades. Et d'ailleurs, je remarque que le Premier ministre a dit attention, parce qu'en ce moment, ça peut toucher les plus jeunes. C'est peut-être une façon de faire peur.
Sur le sujet, moi j'ai dit ici à ce micro il y a 6 mois que j'étais pour la vaccination obligatoire de tous les personnels médicaux qui sont en contact avec les malades, bien évidemment, je le maintiens. Mais là où je suis surpris, et je pense qu'on parfois on nous raconte des cracks, on nous avait dit pratiquement que tous les gens qui malheureusement sont dans les EHPAD étaient quasiment tous vaccinés. Or, les derniers chiffres que j'ai lus hier, c'est des chiffres qui donnent à peu près 80% seulement de gens vaccinés.
Et 80%
des patients des EHPAD, ce n'est pas beaucoup par rapport au fait que ce sont des gens éminemment fragiles et vulnérables. Il faudrait donc obligatoire dans les EHPAD, obligatoire pour les personnels qui touchent les malades.
On continue à parler de ce variant Delta dans un instant. On marque une première pause dans ce débat des grandes voix et on retrouve Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, Catherine Ney et Michel Cotta. A tout de suite.
Europe 1, Sébastien Guyot.
En compagnie de Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou, on parle de ce variant Delta qui inquiète le monde, ce qui va gâcher notre été, et de cette vaccination obligatoire. Faut-il la rendre obligatoire, comme c'est déjà le cas d'ailleurs en Italie pour les soignants, comme ça sera le cas dans les hôpitaux au Royaume-Uni. Et San Francisco, dernière ville en date, qui a annoncé qu'elle voulait vacciner l'ensemble de ses employés municipaux, Charles Villeneuve. Faut aller dans ce sens-là, selon vous ?
Écoutez, quand on va en Afrique, quand on voyage, quand on va en Afrique, on est obligé de faire une série de vaccins, notamment contre la fièvre jaune. Il y a 11 vaccins qui sont obligatoires, notamment quand on se déplace.
Qui celui-là rend malade, la fièvre jaune.
Oui, mais enfin, on est malade, mais on n'est pas mort.
Voilà.
Bon. Vous savez, il y a deux pays qui ont vacciné au maximum. Deux pays. Bon, c'est évidemment Israël et l'Angleterre. Eh bien, c'est là où il y a le moins de décès, le moins de morts, y compris avec l'introduction du variant Delta, qui est très contagieux, mais qui n'est pas, si vous voulez, mortel obligatoirement. C'est une différence qu'il faut faire. Il est pas plus dangereux que la souche initiale, si vous voulez, du Covid. Et donc, il faut se mettre, en quelque sorte, martel en tête, il faut se faire vacciner. C'est la protection ultime. C'est un impératif de santé publique. Et je ne comprends pas que finalement, l'État, finalement, ne décide pas de l'obligation du vaccin.
Mais est-ce que vous ne croyez pas que le gouvernement craint un petit peu les arrêts maladie dans les hôpitaux, les soignants
Non, le gouvernement craint la coercition et... une atteinte à la liberté individuelle.
Mais quand on dit aux gens, vous restez à la maison, le couvre-feu, c'est pas une atteinte à la liberté individuelle, c'est que toutes les mesures qui ont été décidées.
Je suis pour la vaccination obligatoire. Je dis simplement que tous les gouvernements reculeraient ou attendraient par rapport à la vaccination obligatoire. Parce qu'on sait que la médecine reste un domaine libéral, que plusieurs médecins protesteraient, on voit des campagnes de presse, ils ont peur de ça, et quelque part, on peut les comprendre, mais il faut passer au-delà de ça. Voilà.
Non, mais on sait que c'est une course, on sait que c'est une course de vitesse entre les variants et les vaccins, et le nombre de vaccinés. Je trouve qu'on est plutôt en train de la gagner, cette course, parce qu'on a quand même beaucoup baissé, de manière considérable. Alors, c'est vrai que la saison compte et pèse. Oui. On rentre dans une saison d'été. Je suis entièrement d'accord avec Gérard. Ça nous arrive. Bon.
Et donc, souvent.
Mais l'Angleterre aussi. L'Angleterre aussi, et pourtant.
L'Angleterre et Israël sont deux exemples sur ce plan-là dont il faut s'inspirer.
Oui, mais Charles, vous parlez d'Israël aujourd'hui. Ils ont décidé de nouveau de fermer, de repousser en tout cas l'ouverture aux touristes de leurs frontières, de fermer, de remettre le masque
Israël,
à l'intérieur.
Vous connaissez Israël. Écoutez, c'est un petit pays et un petit peuple qui est composé de 7 millions d'habitants. Pour eux, de toute façon, si vous voulez, quand ils sont dans le cadre d'un conflit avec les nations arabes, comme ils l'ont été très souvent depuis 1948, eh bien, chaque mort, tous les soirs, son nom est à la télévision. C'est un événement politique. Et donc, pour eux, de toute façon, les précautions ultimes et même extrêmes sont toujours à prendre parce que la notion de vie, essayer de protection de vie, est quelque chose de considérable. Nous n'avons pas les mêmes impératifs. Et c'est l'impératif qui nous occupe pour... l'heure, c'est de protéger notre population et que le seul argument, de toute façon, valable, c'est la vaccination. Et le traitement aussi, dont il faut dire que l'Institut Pasteur de Lille est en train de mettre au point aussi.
Mais finalement, Catherine, oui. Est-ce qu'on n'arrive pas au bout du système? C'est-à-dire que tant que tous les pays ne seront pas vaccinés massivement, il y aura toujours des variants qui vont apparaître. Là, on parle même du Delta Plus maintenant.
Oui, mais même au sein de l'Europe, il y a des pays comme la Roumanie, la Bulgarie, la Croatie, ils sont à 10-12% de taux de vaccination. Et il y a toujours la circulation, on peut circuler. Bien. Donc là non plus, il y a une police qui n'est pas faite et c'est très dangereux. Voilà, et donc je crois que le gouvernement fait ce qu'il peut avec la vaccination, mais on va peut-être arriver à prendre des mesures plus autoritaires, je ne sais pas.
C'est inéluctable, protection des frontières, c'est inéluctable.
Il y a une sorte... Non, c'est vrai qu'en France, et dans un certain nombre de pays latins, d'ailleurs, il y a toujours eu une méfiance vis-à-vis des vaccins, de la vaccine. Vous rappelez, en Angleterre, tout le monde se faisait, dans le 19e siècle, se faisait vacciner déjà. Tandis que les Français étaient très, très réticents. Ça a toujours existé, en France en tout cas, et dans certains pays latins, mais je remarque quand même qu'on ne peut lutter contre ça, quand on est sûr du résultat, on ne peut lutter contre ça qu'en obligeant à la vaccination. Voilà, je trouve que la liberté des uns commence là où finit celle des autres.
Ayez peur du virus, pas de la vaccination, disait Jean Castex.
Oui, non,
mais c'est le message, mais malgré tout, il n'a pas l'air d'être entendu par les Français.
Parce qu'effectivement, je comprends la raison que Michel a développée. Elle dit d'ailleurs qu'elle n'est pas d'accord avec cette raison, mais cette raison de panique, de dire « Oh là là, il va y avoir des associations, il va y avoir des gens, il va y avoir des infirmières qu'on va entendre sur les chaînes de télévision qui vont dire « Dans ces conditions, moi je ne me ferai pas vacciner, je préfère démissionner », et ainsi de suite. Et du coup, on a peur de ça. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est toujours le même problème. Gouverner, c'est décider. Gouverner, c'est décider, et parfois même des choses qui ne sont pas populaires à 100%. Ah bon. C'est tout.
On se retrouvera à la vaccination obligatoire.
On en parlera en tous les cas à la fin de l'été, parce que la petite musique a déjà commencé à monter. On l'a entendu cette semaine avec Jean Castex, Olivier Véran et Alain Fischer, le monsieur vaccin, même s'il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça, pour une vaccination obligatoire des soignants en tous les cas dans les EHPAD. On change de thème dans un instant. On parle de la loi homophobe en Hongrie. Est-ce que les valeurs européennes sont menacées? Voilà notre prochain débat. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1. Sébastien Guyot.
Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 avec Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta. La loi hongroise remet-elle en cause les valeurs fondamentales et fondatrices de l'Union européenne? C'est le thème de notre deuxième débat. Alors, pour bien poser les enjeux, je vais rappeler ce que dit cette loi controversée. La pornographie et les contenus qui représentent la sexualité ou promeuvent la déviation de l'identité de genre, le changement de sexe et l'homosexualité ne doivent pas être accessibles au moins de 18 ans. Voilà ce que dit le texte. Finalement, Catherine Ney, est-ce que ce n'est pas le Premier ministre belge qui a bien posé l'enjeu du débat? Il a dit cette semaine, être homosexuel, ce n'est pas un choix, être homophobe, ça l'est.
Oui, ça c'est sûr. Je veux dire, ce débat a eu lieu suite au refus de l'UEFA de mettre
l'emblème, le stade de Munich,
voilà. Aux couleurs.
Mais pour le match Allemagne-Hongrie, et là, il répondait au vœu de Viktor Orban, qui a fait voter cette loi début juin. Donc, vu l'ampleur, puisque les joueurs s'en sont ont réagi, c'est le président du Conseil, Charles Michel, qui a inscrit cette question
à l'ordre du jour du sommet européen.
Bon. Or, deux jours avant cette réunion, il y a 17 pays européens qui ont dit que ça contrevenait aux valeurs de l'Europe. Et c'est vrai que l'article 2 du traité européen, l'Union est fondée sur les valeurs de respect des droits de l'homme, y compris des droits de personnes appartenant à des minorités. Donc, on peut dire que cette loi contrevient ce que récuse Orban, parce qu'il dit « moi je fais cette loi pour que les parents » et le choix d'élever leurs enfants comme ils le veulent. Bon.
En Hongrie.
Mais il n'empêche, ça a donné, pendant 2 heures, lors du dîner entre les 27, une tension et un choc émotionnel qu'il n'y avait jamais eu. Alors, vous parlez du premier ministre
belge qui dit « être homosexuel n'est pas un choix, être homophobe l'est ».
Oui, mais ça n'est pas lui qui a joué le rôle le plus important. Hein? C'est le premier ministre luxembourgeois qui a parlé de lui-même, de son homosexualité, de ses souffrances dans son enfance, comment il avait été rejeté par sa mère. Maintenant, il est marié, il va dans les choses officielles avec son mari, mais avec son mari, bon, tout ça est accepté. Donc là, il y avait un choc émotionnel. Et puis, il y a eu le Néerlandais qui a dit qu'il fallait qu'Orban quitte Rutte, qu'il fallait qu'il, carrément qu'il quitte, l'Europe.
Oui, bon. Ça, on va en reparler.
Voilà.
Gérard Carrère.
Oui, alors moi, je ne suis pas d'accord, et je le dis d'entrée de jeu, je parle là institution. Je ne parle pas du fond. J'en parlerai si j'ai le temps. Je parle institution. Quand on a créé l'Europe, la communauté européenne, en 1956, on ne parlait pas des valeurs de ce genre. Ensuite, l'Europe a été élargie au long des années, Jacques Delors, un certain nombre de personnalités importantes. Mais la première des valeurs de l'Europe à 12 ou à 15 ou à 27, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Et d'ailleurs, au nom de la démocratie, pendant des dizaines d'années, on a refusé l'entrée d'un certain nombre d'États. On leur disait, quand vous serez démocratique, que vous aurez effectivement de la tenue d'élection, effectivement, vous pourrez songer à entrer en Europe. Aujourd'hui, nous avons quoi ? Nous avons un État démocratique, puisqu'il est en Europe, qui s'appelle la Hongrie, et qui a voté une loi. C'est-à-dire qu'une majorité de son Parlement a voté une loi, et aujourd'hui, une sorte de majorité européiste sous une philosophie qui est plutôt une idéologie se développe pour dire « Oui, mais c'est pas bien, nous ne sommes pas d'accord, ce sont pas nos valeurs à nous. » Mais attendez, les valeurs de l'Europe n'ont jamais été définies et l'Europe n'est pas une, je le rappelle, et c'est fini là-dessus,
parce que Michel
je veux pas être
veut
trop long,
répondre.
Oui, ce n'est pas une confédération politique, ce n'est pas les États-Unis d'Europe, chaque État est responsable, on l'a vu d'ailleurs pour le sanitaire, est responsable d'un certain, il est souverain dans un certain nombre de ses décisions. Moi, je considère que les Polonais ou que les Hongrois d'aujourd'hui sont souverains, comme les Français ou les autres.
Il y a Michel Cotta et Charles Villeneuve qui trépinent, qui veulent
non,
vous
non,
répondre.
Non, il y avait une très bonne démonstration, dans La Croix d'hier, qui dit que c'est très important parce que au fond, il y a deux sortes d'États en Europe. Il y a l'Europe venue de l'Est, dans lequel la majorité impose sa loi aux minorités. Et puis il y a l'Europe venue de l'Ouest, la nôtre, dans lequel, au contraire, le droit des minorités est absolument sacré.
Passe avant la majorité.
Voilà. Bon, les droits de la minorité, on respecte les droits de la minorité, et respecter les droits de la minorité, c'est quand même être démocratique.
Alors, voilà. Dans les 10 États en question, qui ne sont pas, selon ton point de vue, qui ne sont pas en adéquation avec, avec la conception que devrait être celle de l'Europe, tu les vires de l'Europe
Non, mais on convainc. On arrive à convenir.
Écoute, la Pologne est le pays le plus homophobe et crée des zones où on dit attention, il n'y a pas de LGBT dans ces zones.
C'est un ancien pays catholique qui.
D'accord, mais là, l'Europe ne bouge pas. Elle dit c'est pas bien, mais elle laisse faire. Mais laisse faire, parce que c'est une
parce
majorité.
Que là, je suis assez d'accord avec ce que dit Gérard. Mais en tout cas, il y a deux catégories de pays qui s'unissent tant bien que mal, et de temps en temps, ça fait des clashs. Moi, quand on confond l'homosexualité et la pédophilie, je suis indigné.
Voilà. Quand, on dit dans la loi, une phrase sur le fond, quand on dit dans la loi qu'il faut effectivement ouvrir les enfants à la possibilité du changement de genre et faire une sorte de campagne non dite en faveur de l'homosexualité, moi je dis que ce n'est pas l'école, et surtout en France, avec ce qui s'y passe, c'est pas le premier enseignement de l'école que d'apprendre aux jeunes de 6 ou 8 ans qu'il serait intéressant pour eux de changer de genre ou qu'il serait intéressant pour eux de devenir homosexuel, homme ou femme, etc.
Tu crois qu'on devient homosexuel?
Non, mais attendez.
Il y a une incitation de certains des associations. Je me calme pas, je suis sur le fond.
Non, mais calme-toi, on a entendu, on a compris.
Charles Villeneuve, allez-y.
Non, il y a deux niveaux d'analyse dans cette affaire. Il y a la question des adultes majeurs, bien sûr que le respect des choix individuels s'impose, sans discussion aucune. On est homosexuel, il n'y a rien à dire sur ce plan-là. Rien à encourager. Il n'y a qu'à respecter, de toute façon, ce genre. C'est bien évident. Maintenant, il y a un deuxième niveau. Faut-il autoriser la promotion de l'homosexualité à l'école auprès des mineurs, comme vient de le dire Gérard. Ne serait-ce qu'évoquer cette question, ça semble quand même extrêmement politiquement incorrect, indéniablement. Faut-il autoriser la promotion de l'homosexuel à l'école ? Non, certainement pas. Doit-on limiter l'accès à la pornographie ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, les Anglais ont essayé de modifier la loi. Un certain nombre de Français aussi, Marlène Schiappa en a parlé, etc., a posé la question. Il y a tout un débat là-dessus, et il est bien évident qu'autoriser la promotion de la pornographie, certainement pas. Bon, on est bien d'accord là-dessus. Mais quand le président de la République, dans sa déclaration, dit ce qu'il a dit, c'est-à-dire stigmatiser un homosexuel, bien sûr que c'est inacceptable. On est d'accord là-dessus.
Bien sûr.
Tous ici. Si la loi hongroise est rédigée, votée, appliquée, telle que le président de la République le résume, on ne peut être que d'accord avec lui, je trouve.
Alors, Catherine Ney, Michel Cotta, vous voulez réagir, je le sais, mais je dois marquer une petite pause et on écoutera également la déclaration d'Emmanuel Macron et les conséquences que cela peut avoir au sein de l'Union européenne. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h. Sébastien Guyot.
Avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou, on parle de cette loi hongroise. Remet-elle en cause les valeurs fondatrices de l'Union européenne? On a entendu hier Emmanuel Macron réagir vertement. Je vous propose de l'écouter.
Comment en arrivons-nous collectivement là? Comment aujourd'hui peut-on croire, en Pologne, en Hongrie ou ailleurs, qu'on défend notre histoire, notre identité d'Européens ou de Hongrois ou de Polonais en stigmatisant un enfant, un adolescent, un jeune homme ou une jeune femme pour ce qu'il est et ce qu'il a le droit d'être librement et de devenir? C'est un recul terrible, mais ce n'est pas tant le recul des lois que nous devons combattre, évidemment, avec intransigeance, c'est le recul dans les esprits et les mentalités qui me préoccupent.
Il ne remet pas en cause directement Viktor Orban, Emmanuel Macron. Il parle d'un problème civilisationnel et qu'il ne faut rien céder en la matière. Qu'en pensez-vous, Catherine ?
Non, mais non, il a dit aussi que c'est pas la faute à Orban.
Oui, c'est ça.
Il l'a dit. Mmh. Il l'a dit, c'est en cause, c'est la dérive illibérale, un mot qu'il adore, traduction, la dérive, c'est-à-dire que ce sont des pays qui sont pour la majorité, qui ne tiennent pas compte des minorités, ça c'est vrai, et qui, ces anciens pays de l'Est qui ont été sous joug russe, finalement, ont la même législation pour certains que celle de Poutine. Mmh. C'est ça qui est extraordinaire, à laquelle ils adhèrent. Hein. Bon. Donc, lui, il dit, on ne va pas exclure ces pays, parce qu'au contrairement, ça casserait l'Europe.
Ce qui est vain, d'ailleurs. D'ailleurs, les traités ne prévoient pas l'exclusion
mais il espère, par la persuasion, faire évoluer les esprits. Alors, ce qui est vrai, ce qui est gênant dans la loi d'Orban, c'est vrai qu'il y a des souffrances terribles, car rien n'est plus oppressant que le silence pour des enfants qui souffrent et des adolescents. Or, l'école, quand elle n'incite pas les enfants dès l'âge de 6 ans à demander quel genre es-tu et tout ça, ce qui est vraiment, vraiment pas supportable. Bon. Mais qu'on ne parle pas de l'homosexualité, pour dire aux enfants, justement, il faut apprendre la tolérance. Tout le monde a le droit, et c'est normal, et chacun est dans son droit. Et il n'y a pas de normalité, c'est chacun ne choisit pas sa sexualité. Non. Ça, c'est vrai, et ne pas faire de cours à des enfants comme ça, à l'école. Alors,
peu sur l'homosexualité quand même à l'école. Oui. Mais
il y a des cours sur
l'éducation sexuelle. Non, mais
Catherine, tu as raison de l'évoquer. Mais qu'est-ce que cette affaire révèle? Elle révèle un vrai clivage entre deux Europes.
Oui.
Entre deux parties de l'Europe, c'est-à-dire une partie, celle de l'Est notamment, dont les régimes ont toujours été conservateurs sur le plan des mœurs, c'est-à-dire donc l'Europe de l'Est anciennement issue du pacte de Varsovie soviétique, et l'Europe libérale, celle du Nord et de l'Ouest. Et d'ailleurs, c'est un clivage qui existe aussi sur le plan économique, sur le plan financier. C'est un clivage qui peut amener demain une fracture de l'Europe. Mais non seulement sur ce sujet, mais aussi sur bien d'autres.
Ça révèle aussi quelque chose qui, moi, me fait peur, et c'est aussi pour ça que j'ai une position ferme là-dessus. Ça révèle une Europe, une partie de l'Europe en tout cas, qui est dans le sillage tout droit venu de cette culture du cancel culture américain et du woke américain qui commence, Michel me regarde avec les gros yeux,
on ne peut pas tout mélanger.
Qui a imprégné les associations. On n'a jamais parlé autant de croisades LGBT dans le monde entier que depuis que les Américains ont lancé ça partout. Mais aujourd'hui, on a une partie en France des associations qui vont dans le même sens.
Alors,
et ça, c'est redoutable
choses,
pour ce qu'est l'identité de l'Europe.
Un mot de Mario Draghi, qui est décidément un dirigeant. Oui, le mot de Mario Draghi, c'est « Il y a déjà assez de souffrances dans notre monde, évitons de n'en créer davantage. » C'est des souffrances, tout ça. Nous parlons de jeunes de 18 ans qui souffrent, de jeunes de 18 ans qui n'osent pas savoir où ils sont, qui de temps en temps se suicident. Donc il faut faire attention quand même quand on approche ces sujets. C'est un sujet, je trouve, important capitale, on n'est pas obligé d'en faire 6 caisses. Mais
on n'est pas obligé de faire du prosélytisme pour dire aux jeunes, soyez homosexuels, alors, c'est la bonne solution, ou soyez lesbiens.
Alors, deuxième point qui va à la rigueur dans ton sens, on a oublié que même en France, hein, c'est pas passé si facilement. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, le mariage gay, ça a quand même beaucoup déclenché et des communautés contre. Donc,
rue.
Au fond, on n'a pas tellement de leçons à donner. Simplement, on a donné le sens d'une évolution vers une vie où chacun s'accepte.
Ça pose un autre problème en Europe, d'ailleurs, qui est quand même important. C'est qu'on est en train aussi de donner des leçons de morale sur le plan des législations intérieures d'un certain nombre de pays.
C'est ce que j'ai dit.
Alors justement, Charles, il y a une procédure de sanction qui a été déclenchée à l'encontre de la Hongrie. Et ça a déjà été le cas une fois, deux fois pour la Pologne. Ça n'aboutit pas, ce genre de procédure.
La Commission va regarder s'il y a la contravention avec... la diffusion des films et tout ça, et puis voir aussi si ça contrevient aux valeurs de l'Europe. Et moi, je trouve que tout ça, ça va tourner en autre boudin. On n'en parlera plus au prochain sommet.
Non, parce que ce qui est important quand même, c'est qu'on n'a pas du tout intérêt que d'autres pays quittent l'Europe.
Voilà, quittent l'Europe. Le Brexit, ça va.
C'est très important. Il y a une obsession sur la Hongrie et sur Orban aussi, un peu, systématiquement. Et il faut quand même arrêter de donner des leçons de morale. C'est une propension, d'ailleurs, qu'une partie de notre population journalistique affecte.
Oui, le camp du bien
et puis,
a tendance à se repérer.
Orban, il a des élections l'année prochaine et il est talonné par un parti qui est beaucoup plus à droite que lui, qui est beaucoup plus anti-LGBT, et il doit donner pour cet électorat, parce que la majorité, elle est d'accord avec lui. Hein, la majorité, elle est d'accord avec cette loi. Hein, je veux dire, la majorité, elle est d'accord avec la Constitution, où il a dit qu'un mariage, c'est un homme et une femme, ce qui interdit le mariage homosexuel. Oui. Les homosexuels en Hongrie ne peuvent pas adopter un enfant. Donc ça va très loin.
On ne peut pas dire que ce soit un signe de liberté
majeure.
Non, ce
n'est pas un signe de liberté, mais la démocratie fait que...
Ça aboutit quand même.
Eh ben, oui, mais la majorité a voté pour cette Constitution.
Comment on fait quand un pays se prononce pour quelque chose, que ce soit en France pour la liberté de l'avortement, et on est très content qu'il en soit ainsi, ou pour une loi. Comment fait-on, au nom de quelle légitimité, Michel, au vote démocratique des populations, au respect de la liberté et de la dignité humaine.
Non, mais le plus drôle, c'est que celui qui a écrit cette constitution qui est très défavorable à l'homosexualité, c'est un député européen qui a été arrêté en novembre dans une fête gay avec 25 hommes en plein Covid et qui était marié à la présidente du Conseil constitutionnel hongrois. Donc, imagine le scandale. Comment ?
Ça, c'est beaucoup. Oui.
Eh ben, ça faisait quand même une sacrée hypocrisie. Vous voyez, c'était assez drôle.
Alors, on va en rester là pour ce débat.
Je vous rappelle que César et Alexandre ont beaucoup aimé les hommes.
On reste là.
On parle d'Alexandre, évidemment.
Alexandre le grand, César le grand. Je vous conseille la lecture.
Merci Michel Cotta pour cette référence. On va changer de thème dans un instant pour notre dernier débat. On parlera de la visite en France et en Europe d'Anthony Blinken et de ses messages envers l'Allemagne qui n'ont pas forcément plu à Paris. On va voir ça. À tout de suite.
Europe 1. Sébastien Guyot.
Les grandes voix qui continuent de débattre pendant la pause de ce débat sur la loi hongroise. On aurait pu continuer jusqu'à 11h, mais je voulais aborder un dernier thème avec vous, s'il vous plaît, mes chères grandes voix. C'est la visite d'Anthony Blinken hier à Paris.
Après avoir dit, malgré tout, que la meilleure amie
des États-Unis, c'était l'Allemagne. Avec quel objectif, selon vous, Charles Villeneuve ?
Pour moi, un double objectif. De embarquer l'Allemagne dans sa croisade contre la Chine et de la couper définitivement de la Russie. Ce sera plus facile après le départ d'Angela Merkel, vraisemblablement.
Alors, il a tendu la main à Berlin. En même temps, hier, il était à Paris, il était reçu par Emmanuel Macron, reçu aussi par Jean-Yves Le Drian, qu'il connaît bien, il se tutoie. Anthony Blinken est francophone, il est francophile.
Il a fait toutes ses études jusqu'à l'âge de 19 ans.
Oui, oui. Le Drian lui a dit « Bienvenue chez toi ».
Voilà.
Voilà.
Mais il parle sans accent. Bienvenue
chez toi, il parle sans accent, il est très... Voilà, mais il défend aussi... L'Amérique, d'abord.
Ben c'est ça, bienvenue chez toi.
Et donc, il doit d'autant plus convaincre Merkel... C'est qu'avec la reprise de la Chine, qui elle en a fini avec le Covid, eh bien, le commerce entre l'Allemagne est de plus en plus intense. Donc, l'Allemagne ne peut pas se couper de la Chine.
Mais
donc, il est resté deux heures avec elle.
Mais la France aussi.
Mais la France est considérée comme une quantité plus négligeable. Parce que d'abord, elle n'a pas l'impact, elle n'a pas la force de frappe économique de l'Allemagne, elle n'a pas la même capacité d'exportation, elle a un rôle politique. Et pour elle, dans le fond, Trump l'a rangé. Parce qu'il voyait bien que l'Europe se rendait compte qu'il ne pouvait plus compter sur le bouclier américain. Il voulait sortir de l'OTAN. Et donc, ça forçait les Américains à s'engager sur le voie de la défense et à dépenser chacun plus de 2% de son PIB. Or là, maintenant, c'est arrêté.
Gérard Carrérou.
Oui, écoutez, Blinken, il a beau parler français très bien et avoir vécu 10 ans en France et adorer la France et les discours français et tout le reste. Anthony Blinken est un diplomate américain qui représente les États-Unis. Or, il y a une constante, depuis l'époque du général de Gaulle, de la diplomatie américaine, quels que soient les présidents. Et on voit ça, nous on voit, parce qu'il y en a qu'on aime, il y en a qu'on aime moins. Et du coup, mais il y a une constante dans la diplomatie américaine, c'est de considérer qu'en Europe, il y a un point fixe qui est le vaincu de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui est arrimé au cœur de l'Europe et qui sera toujours dans la dépendance des États-Unis, c'est l'Allemagne, aujourd'hui celle de Mme Merkel, et que la France est toujours, elle, tentée de jouer un jeu particulier. Le général de Gaulle l'avait montré, en s'appuyant, en faisant une force de levier, un couple franco-allemand, en servant de levier, pour donner à la France le... Les Américains n'ont jamais voulu de ça, vous souvenez, les bagarres, Kissinger, etc. Oui, tu dis les... Mais c'est la vérité, Michel.
Non, je regarde.
C'est la... Oui,
je
regarde d'accord. L'heure, c'est... Mais c'est la vérité absolue. Or là, Blinken exprime ce que pensent en plus les démocrates depuis toujours. Il est l'homme de Biden, et Biden est sur cette ligne. Et pour affronter le monde et la Chine, il vaut mieux, effectivement, s'appuyer sur une Europe avec l'Allemagne au cœur de cette Europe que de s'appuyer sur la France.
Mais Gérard, la France, depuis De Gaulle, n'a jamais cherché à être le meilleur allié des États-Unis. La France n'a pas une politique étrangère docile à l'égard des États-Unis. Bien sûr, elle rejoint cette politique. D'ailleurs, nous avons besoin de la force intrinsèque, non seulement militaire, mais économique, des États-Unis, indéniablement. C'est le pays le plus puissant du monde qui leur reste pour l'instant, bien que, si vous voulez, sa domination, sa suprématie, soit discutée et remise en jeu d'ici 2050 par la Chine. C'est en cela, si vous voulez, que les manœuvres de politique étrangère sont en train de changer légèrement. Mais la France ne doit pas se laisser embarquer dans cette affaire, si vous voulez, de guerre commerciale à l'égard des Chinois. N'oubliez pas que le tissu qui fait l'essentiel de notre économie française, c'est les petites et moyennes entreprises. Et le nombre de contrats qui nous lient aux Chinois sont très importants sur ce plan-là.
D'ailleurs, je trouve que la différence entre l'Allemagne et la France a été assez amoindrie par les Allemands et les Français eux-mêmes. Parce que tout de suite, c'est Merkel qui a proposé de voir Poutine comme pour ne pas appartenir à la coalition américaine contre la croisade américaine contre la Chine via Poutine. Et c'est vrai que là-dessus, Merkel et Macron se sont réunis en demandant donc de pouvoir voir Poutine, d'avoir des négociations avec lui. C'est une façon de dire
ce
quand même...
Ce qu'ont rejeté les anciens pays de l'Est en Europe.
Oui, comme d'habitude.
Nouvelle cassure.
Nouvelle cassure, mais ce qui prouve quand même que il y a une proximité germano-française qui reste sur ce point, qui ne veut pas se laisser entroiser dans une croisade,
c'est vrai,
et qui alors, résiste néanmoins.
Vous évoquiez le fait que la France ne veuille pas suivre les États-Unis comme cela. Malgré tout, on a senti une pointe d'amertume chez Jean-Yves Le Drian hier quand il dit à Anthony Blinken « Pendant quatre longues années, la France et l'Europe se sont battues seules pour faire vivre le multilatéralisme et qu'à l'arrivée, vous tendez davantage la main à Berlin qu'à nous. »
C'est pas de l'amertume,
c'est
Sébastien. La réalité. C'est simplement de rappeler que l'histoire, pendant quatre ans, s'est mise entre parenthèses l'impulsion de Trump et que là, si vous voulez, il arrime à nouveau sur le plan, ils ont besoin de leurs alliés occidentaux, justement dans le conflit qui commence par rapport à la Chine. Mais n'oubliez pas une chose très importante, c'est que les États-Unis apporte toute la défense américaine au système défensif européen, et notamment celui de l'Allemagne. L'Allemagne ne dépense que quelques Deutschmark sur le plan de l'effort.
Et au Mali, on a besoin des Américains
aussi. C'est la faiblesse de l'Europe.
Ça contrarie quand même. Macron pouvait penser qu'avec avec Trump, il y avait une avancée. C'est-à-dire qu'ils ont décidé, avec Merkel, de faire cet emprunt avec solidarité, ce qui s'était jamais fait. Mais surtout, ils pensaient que sur l'autonomie stratégique de l'Europe, le Trump qui s'en allait obligeait l'Europe à s'unir sur ce plan-là. Et là, moi, je pense qu'évidemment, l'arrivée de Biden casse un peu son rêve.
Oui, parce qu'on est revenu à la tradition. Mais effectivement, la tradition américaine, c'est l'alliance. L'Allemagne au premier plan, les autres suivent, tant mieux.
En gros, l'Europe trouve quand même que la démarche de Biden n'est pas incompatible avec une démarche personnelle à eux. C'est pas mal.
Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, Angela Merkel sera la première dirigeante étrangère à être reçue par
le 15 juillet.
Le 15 juillet prochain.
Elle s'en va,
C'est des adieux.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Avec regret.
Bye bye, les grandes voix. C'est fini aussi pour nous, pour cette émission.
Oui,
dernière émission
la
de la saison, la semaine prochaine, bien entendu. Merci à vous. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast. Je remercie Jean-Luc Arblade, bien entendu, à la réalisation. Les Capucine Patouillet, bien sûr, pour son aide précieuse à la préparation de cette émission. Tout de suite, c'est la table des bons vivants avec vous, Laurent Mariotte. Bonjour mon cher Laurent, quel est le programme ?
Bonjour Sébastien et bonjour les grandes voix.
Bonjour.
Oui, ça y est, nous sommes dans la place avec Olivier Pouls et Miss Glouglou Ophélie Neyman pour les intimes. On va parler du levain ce matin. Cette levure naturelle nous veut du bien, elle permet de conserver le pain plus longtemps. Et on va recevoir Mohamed Cheikh, vous savez, le vainqueur de Top Chef, avec un plat du jour de compétition. Voilà, à tout de suite.
À tout de suite avec Miss Glouglou. Et bonne émission et bonne journée.
Europe 1.